Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot de l'actu. En veux-tu, en voilà, ce jeudi la plus brûlante, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Quelles affiches pour le premier tour? Quel tirage pour les clubs français en lice? PSG, Rennes, Marseille, réponse d'ici quelques minutes. On est fébrile du côté de Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Non, pas du tout, très serein.
On ne connaît pas encore l'adversaire, les adversaires de l'Olympique de Marseille. Ça va tomber dans quelques instants. Ne faites pas les malins. À ma droite, Patrick Juillard, vous êtes niçois, vous êtes trop à l'est. Votre équipe ne dispute pas la Ligue des Champions.
Elle est à l'étage en dessous, mais peut-être un jour, qui sait.
Peut-être un jour. Mais vous suivez attentivement, évidemment, ce tirage. Et alors, quant à Xavier Barret, là, c'est le calice jusqu'à la Ligue. Parce que lui, son équipe, c'est Nantes. Or, il va suivre dans quelques instants le tirage au sort de Rennes qui s'apprête à disputer sa première campagne de Ligue des Champions. Bonjour Xavier.
Bonjour, bonjour, bonjour Hugo. Mais Nantes avait fait des magnifiques parcours en Coupe d'Europe. Il faudrait vite qu'ils reviennent.
C'était il y a longtemps, 96, je crois. Donc. Ça nous rajeunit pas énormément. Allez, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, l'UEFA décerne également des récompenses individuelles. Le grand gagnant, le joueur européen de l'année, c'est là encore suspense. Rendez-vous dans quelques minutes. Une belle surprise également au sommaire de Radio Foot. Le retour d'un éléphant vedette en Côte d'Ivoire. Un éléphant qui va très vite. Gervinho va retrouver son équipe nationale. Et ça, évidemment, ça nous fait très plaisir. Radio Foot, émission préparée avec Pierre-Olivier Guérin, réalisée par Alice Ménard. C'est parti. Allez, avant la Ligue des Champions, avant le Bayern, avant la Côte d'Ivoire, avant le PSG, Marseille, Rennes, un dossier un peu moins reluisant et qui va nous amener justement à parler du PSG de Marseille. Une triste polémique pour le football français, le dénouement est connu enfin depuis hier. Un court résumé, hein, si vous avez vécu sur Mars ces derniers mois. Après la victoire de Marseille à Paris le 13 septembre dernier, au terme d'un match particulièrement houleux, Neymar a accusé Alvaro, le défenseur de l'OM, de racisme. Neymar qui à son tour s'est retrouvé accusé de racisme et en plus de propos homophobes. De lourdes suspensions étaient envisageables pour les deux joueurs. Il n'en sera rien puisque la commission discipline de la Ligue de football professionnel en France n'a prononcé aucune sanction. Faute de preuves, on peut dire ça comme ça. Patrick Juillard, est-ce que vous trouvez cette décision de la LFP sage ou bien est-ce que vous la trouvez trop clémente? Je donnerai la parole tout à l'heure à Marc Libra, mais pour l'instant un peu d'objectivité, Patrick.
Un peu d'objectivité, avec la tête tout à fait froide, avec une neutralité absolue dans le regard que je porte sur ces deux équipes. Je trouve que c'est une décision raisonnable. L'instruction n'a pas été assez longue pour pouvoir établir de manière définitive que des propos racistes ou homophobes ou les deux aient été prononcés. Dans ces cas-là, le doute profite aux accusés dans les deux cas, donc un partout, ou plutôt 0-0, la balle au centre. Après, j'aurais pensé tout de même que dans l'éventail des sanctions possibles entre rien du tout et les 10 matchs qui étaient au barème, si les insultes racistes...
Oui, ça pouvait monter jusqu'à 10 matchs pour l'un comme pour l'autre.
...étaient avérés, on aurait peut-être pu imaginer un juste milieu. Rappelons, par exemple, l'affaire, très vite, Milan Baros, en 2007, lors d'un match entre l'OL et le Stade Rennais. Il avait fait un geste un petit peu équivoque en direction de Stéphane Mbia, lui donnant l'impression qu'il sentait mauvais, sous-entendu, les Noirs sentent. Bon... On n'avait pas pu établir vraiment le
caractère raciste
exact du geste, mais il avait été condamné à 3 matchs de suspension pour comportement inapproprié et antisportif. On aurait peut-être pu imaginer une sanction similaire pour Alvaro et Neymar, puisque leurs incartades ont provoqué des interruptions du match, ce qui est l'essence même de l'anti-jeu sur un terrain de foot. Ça n'a pas été décidé ainsi. L'affaire est peut-être pas forcément terminée pour Neymar, puisqu'il pourrait, si toutefois la commission est saisie, être inquiété pour les propos supposés envers Hiroki Sakai.
Là, des propos racistes.
Le japonais de l'OM, auquel il aurait balancé
un racisme anti-personnalité venue d'Asie. Xavier Barret, on rappelle que cette affaire elle a pris une tournure internationale. Cette polémique a vraiment fait parler, et pas qu'en France, avec des experts en lecture labiale sur les lèvres qui se sont exprimés, qui ont tenté de décortiquer alors ce qu'aurait pu dire Alvaro à l'encontre de Neymar, ce qu'aurait pu dire Neymar à l'encontre d'Alvaro et ou à l'encontre de Sakai, et finalement rien de suffisamment probant pour la LFP. Est-ce qu'il y avait le risque de créer un précédent pour cette ligue de football professionnel? Est-ce que ça explique aussi le caractère prudent de son jugement.
Je pense que la commission de discipline a pris la seule décision raisonnable dans cette affaire. Sinon, vous imaginez maintenant, toutes les semaines, on aurait « Ah, il m'a traité de girafe, il m'a traité de d'âne, il m'a traité... » Non, mais on s'en sort plus. On sait très bien que sur les terrains, ça chambre dans tous les sens. Et voilà. Et nous, on a envie de parler de football. Donc, je trouve que depuis 15 jours, cette affaire nous a assez emmerdés, pour parler simplement. Donc, on met les pendules à zéro et on passe au ballon et c'est beaucoup mieux.
Marc Ibra, le Marseillais. Finalement, oui. Alvaro s'en sort bien. Il a longtemps tenu le rôle un peu du méchant, on va dire, dans cette affaire. Puis oui. La tendance s'était un petit peu inversée avec les accusations portées à l'encontre de Neymar. Finalement, les deux joueurs s'en tirent plutôt bien, même si Neymar il a écopé d'une suspension parce qu'il avait pris un rouge pour un mauvais geste à l'encontre d'Alvaro dans une affaire, on va dire, un peu parallèle. Votre réaction, tout simplement?
Je pense que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est un simulacre de commission où on nous explique certaines choses. Après, je suis surpris que mes deux camarades nous disent qu'ils voient ça, que c'est absolument normal. Si on relate le match, alors les propos, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand même, Neymar met quand même un taquet. Enfin, concrètement, il met un bon coup de poing dans la tête d'un joueur.
Il a pris deux matchs de suspension.
Je suis d'accord. Donc moi,
on parlait juste des insultes supposées là.
Oui, non, mais autre les insultes supposées. Si aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a fait pendant tout l'ensemble du match, tout ce qu'il a fait, d'avoir.
Oui, mais on peut pas juger un joueur sur l'ensemble. On doit juger sur des faits.
Ben, tu as vu le match. Donc oui. Tu penses que Neymar, il a pas foutu la merde pendant tout le match.
Non, mais d'accord, mais Payet aussi.
Vous y étiez pas, moi j'y étais. Neymar, il a plongé tout le temps. Dès qu'on lui soufflait dessus, il tombait. Donc je suis tout à fait d'accord, ce match était affreux. Oui. C'est une très mauvaise publicité pour le football français. Ça a terminé d'ailleurs en bagarre générale. Il y a eu 5 exclus. Ils ont été suspendus. Allez, maintenant c'est fini. On passe à autre chose. Voilà, c'est bon, on va pas ergoter là-dessus. Ça fait 15 jours qu'on parle que de ça. La commission de discipline a tranché. Maintenant, on passe à autre chose.
Ah, des conneries, la commission là, parce que pas,
alors, non, la commission de discipline,
il peut dire des conneries. Excuse-moi, il dit des conneries.
Surveillez un peu votre langage, sinon c'est vous qui allez être sanctionné par notre commission de discipline.
Ils peuvent dire des bêtises, c'est énormissime. Et c'est pas parce que t'es au match que t'as mieux vu que nous.
Je les ai vus.
Qu'est-ce que tu as vu?
Toi, tu vois que ce que les images veulent bien montrer. Nous, on voyait effectivement les gars qui
se chauffaient. Tu vois bien que Neymar, dès le départ.
Ça fait partie du match, tu le sais, toi, t'as été pro.
À partir de la 30e minute quand il marque, tu as bien vu que le seul but de Neymar, de Di Maria, c'était de casser du joueur, de faire n'importe quoi. Alors, ils se sont pourris le match.
Encore une fois,
prends en compte ce genre de choses. On oublie les insultes, tout ça, puisque on a.
Oui,
pas
mais
de
ils ont été sanctionnés. Di Maria a pris 4 matchs pour crachat. Voilà. Neymar exclu pour mauvais geste. Il prend 2 matchs plus 1 avec le sursis, suspension pour Kurzawa, Paredes. Mavi et Benedetto côté Marseille.
Ça suffit. C'est bien comme ça.
Il prend 6 matchs. Pourquoi Mavi prend que 3? Pourquoi il prend pas 6?
Alors on ne peut pas refaire tout ce match-là, Marc. Simplement. Est-ce que vous suivez Xavier finalement
je suis
Patrick
Julliard.
Est-ce qu'on est content de refermer ce chapitre?
Les faits précis ont été sanctionnés pendant le match et ensuite par des suspensions adaptées. Ensuite, sur les insultes, je pense bien qu'il y en a eu. Comme on ne peut pas le prouver, dans ces cas-là, le doute doit profiter au...
Celle sur Sakai,
ça, c'était pas en instruction encore. Ça peut encore l'être si l'OM saisit la commission, ce qui est pas sûr. Parce que, à mon avis, l'OM est comme le PSG, on veut tourner la page de ce match. L'OM a gagné, en plus, donc c'est tout.
Ils ont bien raison.
Voilà, et point final. Je veux dire, on va pas faire toute la saison sur un match.
Je dis pas de faire toute la saison. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont passées.
3 mois avec cette histoire.
Vous faites bien préciser, Patrick, que les travaux de la commission se sont essentiellement concentrés sur les échanges entre Neymar et Alvaro. Donc, voilà, on suivra la suite, mais pour l'instant, on est content, effectivement, de refermer ce chapitre. Rendez-vous tout de même en février pour le match retour au MPSG au Vélodrome.
Et sur le terrain et sur du ballon.
Un petit peu chaud, mais on espère effectivement un excellent comportement, un comportement bien meilleur de tous les joueurs Paris et Marseille qui devront bien sûr également montrer de bien meilleures choses sur le plan de l'image en Ligue des Champions face à qui? Eh bien, on a la réponse.
We start with pot one. Didier, it's in your hands.
Okay. You're doing the honors. Paris Saint-Germain.
Didier Drogba, vous avez reconnu sa voix, c'est lui qui a effectué le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. A priori, c'est pas encore tout à fait terminé, si j'en crois le site internet que je suis en train de consulter à l'heure où je vous parle. Alors, a-t-il été sympa avec Marseille, son ancien club? Drogba a-t-il été un peu plus cruel au moment de trouver des adversaires à ses anciens rivaux, le PSG bien sûr, mais aussi Rennes, hein, parce qu'il a porté les couleurs de Guingamp à notre club breton? Eh bien, réponse tout de suite. Vous voulez qu'on commence par qui? PSG, Marseille, Rennes, honneur au...
Le finaliste, le vice-champion d'Europe.
Voilà. Honneur au vice-champion d'Europe. Alors, le PSG, je vous donne tout de suite le tirage. Manchester United, tiens, les retrouvailles. Leipzig, tiens,
aussi.
Les retrouvailles. Et puis, Başakşehir, le club turc. Là, pour le coup, ce sera une première. A priori, j'ai pas eu le temps de pousser plus loin mes investigations.
Oui,
bon tirage ou pas? Manchester United, Leipzig, c'est quand même plutôt relevé pour des équipes qui ne faisaient pas partie du premier chapeau.
Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Alors déjà, ce sont deux équipes que le PSG a affrontées lors d'éditions récentes de la Ligue des Champions. Donc peut-être que les erreurs qu'ils ont pu faire, notamment contre Manchester United, ils seront un peu vaccinés contre ça. Ils ne prendront pas le risque de sous-estimer cette équipe. Leipzig, c'est une équipe qui est une équipe jeune, mais avec un coach ambitieux qui sait où il va et qui sait bien faire jouer son équipe. Est-ce que Leipzig sera aussi fort en automne qu'il a pu l'être en deuxième partie de saison? C'est une question.
Faut rappeler Patrick quand même que Leipzig était plus fort l'automne dernier qu'ils l'ont été au printemps, puisqu'ils étaient en tête du championnat d'Allemagne.
Pourtant, ils n'ont pas réussi à battre l'Olympique Lyonnais.
Hein, qui était
relativement
en
difficulté
du championnat d'Allemagne à ce moment-là.
Et Başakşehir, bon, c'est le nouveau venu, le nouveau riche un peu de la Super League turque.
Qui bénéficie d'un soutien politique.
Du chef de l'État notamment. Et c'est un club qui a pas de repère à ce niveau-là, mais les déplacements en Turquie, c'est jamais très simple. Même si l'aspect supporter et l'aspect public jouera moins, puisque le match risque d'être devant une assistante réduite.
On attend des précisions concernant le retour du public.
Puis surtout, j'ai eu l'occasion de commenter le championnat de Turquie sur Canal+, International, Canal+, Afrique ces dernières saisons. Başakşehir, ils ont pas de supporter. Hein. C'est un club totalement artificiel. Patrick l'a évoqué. C'est le club, en fait, qui a été monté par le médecin d'Erdogan. Donc, qui a la tête d'un groupe de cliniques, enfin un groupe pharmaceutique et médical très, très puissant, voilà. Et donc, il a monté ce club, mais en fait, c'est un club qui a pas d'histoire. Voilà, c'est un club totalement artificiel, qui a d'énormes moyens financiers et qui, en revanche, n'a pas de supporters, puisqu'on sait très bien qu'à Istanbul, les supporters se partagent entre Galatasaray et Beşiktaş.
Et ceci dit, ça n'avait pas perturbé le PSG qui avait largement dominé Galatasaray l'an passé. Donc, même si on en faisait une configuration normale, a priori, le PSG sait gérer les ambiances turques.
D'autant moins qu'il n'y a pas de supporter à Başakşehir. Donc, du coup.
Leur gros avantage disparaît, mais effectivement, c'en est même pas un pour Başakşehir.
Après, c'est quand même un club qui a beaucoup d'argent, donc qui peut recruter des joueurs intéressants, des joueurs de qualité. Et s'ils arrivent en Ligue des Champions cette saison, après y avoir failli y accéder il y a 2 ans, ils avaient été sortis par le Football Club de Séville en barrage. D'extrême justesse, ça s'était joué, je crois, au but à l'extérieur, à très peu de choses. C'est quand même un club qui s'est structuré très vite et qui a de vraies qualités. Ils auraient presque pu croiser Mevlüt Erding, mais il est parti. Il est parti de Başakşehir. Donc,
on n'a pas d'autres Africains à croiser du côté de Başakşehir. Vous êtes en train de vérifier ça tout de suite, Patrick Juillard. Réponse dans quelques instants. Marc Libra, Manchester United, Leipzig, Başakşehir. À Manchester United, ce sera l'occasion de prendre une sacrée revanche, tant le retour raté en 2019, 8e de finale retour, avait été un traumatisme presque aussi fort que la remontada contre le Barça pour Paris.
On avait parlé dans ce sens-là. On va se rappeler de la main de Kimpembe injustement sifflée pour un pénalty imaginaire parce que le ballon partait sur le périph. Oui, après, est-ce que c'est le Manchester que l'on a vu actuellement qui a du mal à démarrer sa saison? Est-ce que
qui a gagné hier?
Ouais, qui a gagné, mais c'est pas le grand Manchester United que l'on peut voir. Ils vont se mettre en jambes aussi la plupart des équipes. On attend de voir, mais c'est, on va dire que Paris s'en sort quand même plutôt bien quand on voit
Paris était tête
de chapeau 2. Ouais, non, mais dans le chapeau 2, quand on a gagné Barcelone,
il peut y avoir le Barça, Dortmund, Chelsea.
Il y avait aussi City, le Borussia, l'Ajax. Bon, c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Alors, on va laisser Paris là. On se fait pas trop de soucis pour les vice-champions d'Europe, si?
Oui, Manchester United et Leipzig, c'est quand même des vraies valeurs sûres aujourd'hui du football européen. Leipzig
en Ligue des Champions?
Va en demi-finale la saison dernière.
United, c'était une demi-finale de Ligue Europa.
Et Manchester United, c'est quand même un grand d'Europe et qui revient bien maintenant. Donc, non, pour le PSG, je trouve que c'est un groupe plus difficile que ceux auxquels ils ont eu droit ces dernières saisons.
Est-ce que c'est pas justement plutôt une bonne nouvelle d'avoir un peu d'adversité entre guillemets dès le départ, parce que là ça va commencer fin octobre.
Les arguments sont réversibles, alors on peut se dire c'est bien d'avoir des gros clubs d'entrée pour être dans le bain et ne pas s'endormir sur ses lauriers. En même temps, on peut se dire aussi que les équipes sont plutôt, comme le PSG, sont plutôt faites pour être surperformé en mars-avril et donc en automne, il vaut mieux des affiches faciles.
On est dans une saison particulière, puisque là justement, ce calendrier de la Ligue des Champions resserré fait que les matchs vont s'enchaîner très très vite. Donc là où parfois
on
vous
part du 20 octobre à peu près au 8 décembre, dates exactes.
Ça va être sur moins de 2 mois, alors que d'habitude ça s'étale sur 3. Donc là du coup, il va y avoir un enchaînement des événements qui vont aller très très vite, d'autant plus qu'il y a les autres compétitions qui s'intercalent entre temps. Il n'y aura pas de temps de repos, donc une équipe qui va être en méforme sur 1 ou 2 journées, elle n'aura pas la possibilité de se reprendre un mois plus tard, puisque ce sera presque fini.
Encore un mot sur le PSG, Marc, ou vous voulez qu'on...
Non, mais
que je vous donne des nouvelles de l'Olympique de Marseille.
Non, mais je crois que tout a été dit sur Paris. Après, je pense que c'est plutôt pas mal de prendre... Il y a même Manchester City, ils prennent United, c'est mieux. Oui, il y a une équipe comme Barça. Oui. Donc on va dire que...
Ça aurait pu être pire.
Ouais, ça aurait pu être pire. Après, le contexte, on verra ce qui se passe. Et Paris va devoir faire tourner aussi, parce que en jouant très, très rapproché, il faut voir ce qui se passe pour eux.
Marseille, à présent, messieurs. Ouais, ouais. Porto, peut-être la tête de série la plus faible pour l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est pas mal. City, alors là, en revanche, c'est le meilleur du deuxième chapeau. Olympiakos, je crois que ça va occasionner de belles retrouvailles avec un ancien. Mathieu Valbuena, est-il encore du côté de la Grèce, il me semble. Voilà, donc Porto, Manchester City, Olympiakos. Pour l'OM, ça va pas être simple, on va pas se mentir. Marseille était parti pour être une des équipes les moins bien loties, parce que dans le dernier chapeau, j'ai dit que ça allait pas être simple. J'ai pas dit que ça allait occasionner une déroute comme la précédente campagne de Marseille en Ligue des Champions.
Franchement, vous voyez ce tirage, Marseille potentiellement est le deuxième du groupe. On va pas dire qu'Olympiakos.
Avec Porto, c'est moins bon.
Porto, franchement, c'est un petit champion du Portugal cette année. C'est une équipe qui a perdu énormément de joueurs parce qu'ils font beaucoup de trading depuis des années, puis petit à petit, ils s'appauvrissent. Et sincèrement, ce tirage me paraît intéressant pour l'OM parce qu'on avait peur qu'il soit dans un groupe de la mort où il fasse effectivement, comme la dernière fois, 0 pointé. Là, franchement, je pense que l'OM peut espérer la deuxième place du groupe.
Je suis d'accord avec Xavier. Effectivement, alors bon, évidemment, Manchester City, ça me paraît à des altitudes inaccessibles pour l'OM.
Encore que le début de saison est pas exceptionnel.
Je pense quand même que c'est inaccessible. Voilà, je maintiens. Après, effectivement, Olympiakos... On les a même connus avec des meilleurs effectifs que ce qu'ils ont actuellement. Et le FC Porto, c'est pareil, c'est un grand d'Europe. Il faut pas sous-estimer le foot portugais. C'est un club qui à lui tout seul a gagné autant de coupes d'Europe que le
foot français.
L'ensemble du foot français pratiquement. Mais effectivement, c'est pas une équipe qui domine son sujet comme c'était le cas il y a quelques années en Superliga. Donc je suis de l'avis de Xavier là-dessus, je le suivrai plutôt. Alors par contre, l'OM, les autres clubs se disent pareil. L'Olympiakos et Porto, ils voient le Marseille et le niveau actuel de l'OM. Ils se disent, bon, c'est aussi prenable pour nous. Donc il faut que l'OM peut s'en sortir, mais à condition de hausser son niveau de jeu par rapport à ce qu'elle produit ces dernières semaines.
Voilà. Allez, faisons parler l'expert, le régional de l'État. Vous êtes satisfait ou pas, Marc Libra? Rassuré?
Oui,
ou
pas? Oui. Après, City, c'est vraiment au-dessus. Et la différence, il y aura à gérer ce genre de rencontre. Est-ce que sur City, parce que l'accumulation des matchs et vu l'effectif très pauvre de Marseille, peut-être qu'il faudra faire des choix face à City et pas forcément mettre les meilleurs joueurs ou faire attention. Et après, il faudra aller chercher des points contre Porto et l'Olympiakos. L'Olympiakos, on se rappelle, c'était en 95 la dernière fois, on était en Ligue 2 quand on rencontre l'Olympiakos, victoire on les avait battus, autant là-bas que chez nous. Donc ça remonte à, s'il y a plus de confrontation depuis, je crois que c'était 95-96. Donc c'était pas la Ligue des Champions à l'époque, puisque c'était une autre Coupe d'Europe. Mais c'est de bonnes retrouvailles. Et puis le contexte aussi, quand on va à l'Olympiakos, s'il y a du public, il y a une ambiance, il n'y a pas de public, c'est autre chose. Alors ça sera pareil au Vélodrome, on est d'accord.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu dommage quand on voit ce.
Olympiakos, c'est d'une vieux.
C'est un cratère.
C'est un petit peu un crève-cœur. Ah oui. Je fais une petite parenthèse, quand on voit un groupe comme celui-là et qu'on peut imaginer effectivement un match, une confrontation Olympiakos, Marseille, Marseille, Olympiakos, d'imaginer que les stades ne seront pas pleins. Et d'ailleurs, plus généralement pour Marseille et pour réaliser un exploit contre City, voire contre Porto, ne pas bénéficier d'un vélodrome en fusion, ça va être une faiblesse.
L'exploit, il ne faut pas battre City, il faut battre Porto, Olympiakos. Parce que City, c'est tellement, pour moi, une marche au-dessus que s'il y a un exploit à faire, il faut aller y battre Porto. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Marseille, vu la situation, ça se tient à l'Olympiakos, ça peut se tenir avec Porto, mais il va falloir faire des résultats contre
eux. Ce que tu disais sur le fait de partir, de sacrifier délibérément le match de City,
peut-être.
C'est peut-être pas forcément un bon calcul, ça dépend à quelle journée il est placé,
mais c'est
parce que si tu commences par le sacrifier, que c'est la première, que tu prends 7 buts, Après, c'est dur moralement de s'en relever, quoi.
Je suis d'accord avec Patrick, on est totalement en désaccord avec Marc Libra, même si on est nés tous les deux à Toulon. C'est que.
Non, mais. Moi, ça s'entend, lui, ça s'entend pas.
Je veux dire que Marc est en rade, quoi.
Souvenez-vous, le Lyon contre Manchester City.
Oui,
il y a deux ans, ils gagnent leur qualification pour les huitièmes de finale.
Ils étaient pas
contre Manchester City.
Ouais, mais
parce que
des joueurs différents.
Peut-être, mais ils prennent 4 points sur 6 contre Man City, oui. Là où je crois que c'était le Zénith, et Benfica, je crois.
Hoffenheim.
Et Benfica,
Tu les prends lors de la première journée, tu fais un exploit. Tout le monde voulait virer Jésus, et après tu les prends la dernière journée où City joue plus rien. Donc si tu veux, je suis d'accord. Là,
c'est ce que dit Patrick.
Totalement différent.
Sujet du calendrier.
Non, mais c'est toujours pour une équipe dont les joueurs n'ont pas la même expérience européenne que ceux de City, c'est bien de faire un gros match et d'essayer de tenir tête le plus possible aussi. Je pense que c'est dans ces matchs-là où on peut franchir un petit cap, même individuellement. C'est aussi un révélateur individuel.
Certains joueurs, ça va être dur, hein.
Oui, mais certains joueurs peuvent se révéler. À l'inverse, d'autres peuvent décevoir et laisser apparaître certains doutes. Donc, je pense que pour un coach qui, en plus, n'a pas un gros effectif, ça peut être un match test un petit peu. Au-delà du résultat, effectivement, parce que Villas-Boas ne s'attend pas à ce que l'OM prenne 6 points contre Manchester City. Il faudrait être...
Et le fait, André Villas-Boas, qu'il retrouve Porto, le club de ses...
C'est son club de cœur.
En tant qu'entraîneur, est-ce que ça va jouer? Bon, c'est la petite anecdote, l'histoire.
L'avantage pour l'OM, c'est que Villas-Boas c'est son club de cœur. Il le suit de manière avec une attention très particulière. Donc, il connaît sur le bout des doigts cette équipe. C'est un avantage maigre, mais c'est quand même un avantage.
Ouais, maintenant, vous savez, tous les clubs espionnent les autres et les connaissent parfaitement.
Oui, mais je pense que c'est mieux que Ferencváros ou Midtjylland, par exemple.
Oui. Maintenant, Villas-Boas, il a aussi fait beaucoup de clubs, donc il risque, au gré de ses aventures européennes, il risque de retrouver beaucoup d'anciens.
C'est vrai.
Il me semble qu'à l'époque, c'était Shakhtar Donetsk et Hoffenheim pour Lyon. Oui. Zénith, c'était la saison dernière. On comprend votre raisonnement. Voilà,
comme nous n'avons pas de réseau dans votre studio, Hugo Moissonnier,
on peut pas tout vérifier. Mon cher Xavier, le football, c'est du patrimoine, c'est de la transmission. C'est de la mémoire. Rennes, le petit poussé en ce qui concerne les clubs français en lice, c'est peut-être l'un des petits poussés tout simplement de la compétition. En tout cas, un club qui va découvrir la Ligue des Champions pour la première fois, pour son entrée dans la cour des grands, le Stade Rennais, bien plutôt bien loti, non? Séville, Chelsea, Krasnodar.
Les deux premiers sont pas mal quand même.
Je m'enflamme un petit peu.
Clairement, ils peuvent Ils peuvent espérer être versés en Europa League. Je crois que ce sera l'objectif pour le Stade Rennais parce que franchement, Chelsea et Séville sont clairement au-dessus.
Voilà.
Oui, à mon avis, l'objectif n'est pas forcément de franchir la phase de groupe, plutôt d'apprendre et de faire bonne figure pour Rennes. Alors juste, on parlait de retrouvailles, les retrouvailles avec Edouard Mendy. Pour Rennes, ça va être assez sympa.
Ouais, ça peut être sympa. C'est un match entre
portiers. Vous êtes pas très retrouvailles en ce moment.
Non, mais si, c'est surtout en plus un match entre une des retrouvailles déjà entre effectivement Mendy et le Stade Rennais, mais aussi entre Mendy et son remplaçant ou concurrent en équipe nationale sénégalaise, Alfred Gomis, qui est maintenant le gardien du Stade Rennais. Alors moi, je suis d'accord. Effectivement, le FC Séville, bon, on a toujours tendance à se dire c'est plus une équipe d'Europa League, mais déjà gagné autant de fois l'Europa League, c'est signe d'une grande équipe et d'une grande équipe européenne. Chelsea, ça reste un gros morceau. Et puis Lampard veut faire progresser cette équipe et est en train d'y arriver. Et puis Krasnodar, ça, on connaît pas trop. Mais moi, je me rappelle, l'OGC Nice avait joué en Ligue Europa il y a quelques saisons contre cette équipe. Il faut aller se les coltiner là-bas.
Ça joue très bien au football. Voilà, c'est une équipe qui joue très bien au football.
Le Stade Rennais, déjà, s'ils finissent troisième, ça voudra dire qu'ils ont pas rater leur campagne.
Puisque vous parlez de retrouvailles, Hugo, il faut signaler qu'il y a Rémi Cabella dans cette équipe de Krasnodar.
Donc là, il retrouve qui
il va peut-être croiser les anciens coéquipiers ou adversaires sûrement. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on aura a priori des très beaux matchs. Parce qu'on a des équipes qui jouent très bien au football. Krasnodar, ça joue très bien au football. Le Chelsea de Lampard, c'est un football aussi intéressant. C'est très séduisant. Donc on devrait passer de bonnes soirées.
Oui, puis a priori équilibré. Pas une équipe ne semble être en mesure de totalement écraser ce
L'effectif
ce groupe.
De Séville est au-dessus de celui de l'effectif de Chelsea est au-dessus en quantité et en qualité.
Même il est en rodage.
Séville, c'est l'expérience la plus forte. Krasnodar, mine de rien, c'est une équipe très solide. Et le Stade Rennais, il a son enthousiasme, il a sa sa ligne de progression qui est peut-être la meilleure des quatre équipes, mais c'est aussi celle qui part de plus bas. Donc,
ce qui est sûr et voilà, certain, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous propose Rennes, c'est quand même du très haut niveau parce qu'on prend beaucoup de plaisir.
C'est enthousiasmant à voir. Ouais.
Kamavinga qui est extraordinaire.
Mais Rennes leader de Ligue 1. Voilà. Je parlais de petit poussé, mais le meilleur Ligue 1 pour l'instant, c'est Rennes.
Puis surtout, quand on les voit évoluer avec les recrues, Zonzi, que ce soit, c'est bien fait. C'est bien pensé. Et aujourd'hui, alors Chelsea, pour moi, ils sont toujours en rodage parce que j'attends toujours alors recrutement gigantesque. Mais pour l'instant, les recrues ont du mal à se mettre dans le bain. Mais Rennes peut aller jouer les troubles faites. Vraiment, après, Krasnodar, ça reste le truc en disant, ça peut être facile. On se concentre sur Séville, Chelsea, mais il va falloir aller quand même jouer là-bas et c'est très compliqué.
On se souvient que Rennes avait réalisé une belle campagne en Ligue Europa il y a deux saisons, en allant notamment à Séville, mais affronter de Bétis, et puis en allant à Londres, mais pour affronter Arsenal. Voilà pour le tirage des clubs français. Est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques minutes pour parler des autres groupes? On a quelques affiches, mais moi je n'aime que ça, les retrouvailles.
Mais c'est
mon leitmotiv aujourd'hui. Je suis un sentimental. Et d'ailleurs, c'était mes retrouvailles avec vous aujourd'hui, Marc Libra. C'est pour ça que je suis un petit peu ému. Bayern, Atlético, Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Ça, c'est pour le groupe A. Alors, Bayern champion titre, a priori le seul rival c'est l'Atlético de Madrid. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Gladbach. Alors ça c'est assez homogène comme groupe pour le Real Madrid, même si le Real et l'Inter sont au-dessus.
La question c'est à quel niveau Real est le Real, parce que si le Real est à un bon niveau, ils sont au-dessus.
Pas de là à penser que Gladbach et Donetsk.
Et surtout voir l'Inter, parce que l'Inter au vu de sa saison passée et cette année, je pense qu'on mise beaucoup sur eux pour aller perturber cette Juve. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose.
Rappelons que le Real avait été accroché par le FC Bruges en poule la saison dernière. Donc,
c'est vrai.
S'ils ont le même retard à l'allumage dans un groupe comme ça, ça peut donner quelques matchs accrochés intéressants.
Je vais sauter au groupe G parce que l'heure tourne et qu'on est quand même obligé. Et là, retrouvailles plus 5 étoiles, Juventus Turin, Barcelone, Dynamo de Kiev.
Ceux qui sont contents, c'est les dirigeants des clubs de l'Est. Parce que pour avoir suivi de nombreux tirages au sort pour France Football à l'époque, je peux vous dire que les pays de l'Est, ils attendent qu'une seule chose, c'est que d'avoir des gros clubs occidentaux au moment de ces tirages. Et là, les dirigeants du Dynamo de Kiev, comme du Ferencváros de Budapest, ils sont servis. Ils ont le Barça avec Messi.
Il y a personne dans le stade.
Et la Juve avec Cristiano Ronaldo. Effectivement, ils pouvaient difficilement rêver mieux.
Alors justement. Turin-Barça, Juve-Barça, ça veut dire que dès le premier tour, on va avoir un Messi contre Ronaldo, un Ronaldo contre Messi. C'est sympa, ça, quand même.
C'est une retrouvaille,
Et je crois que c'est une première en phase de groupe de la Ligue des Champions.
Ouais, que les deux se rencontrent comme ça, ouais. Mais après, il faut être dans le bain de suite. Parce que s'ils se rencontrent lors de la première journée, là, par contre, il faut faire vite un effort pour essayer d'aller déjà gagner pour pouvoir avoir une avance sur eux.
Oui, là, c'est sûr que aussi... Dynamo Kiev et Ferencváros vont avoir un petit peu du mal à tenir la dragée haute.
Ferencváros qui passe avec deux matchs nuls contre Molde,
le club norvégien,
qui a l'air d'être assez coriace, mais qui m'a pas l'air génial dans la créativité, dans l'offensive. Bon, ce qui est intéressant au-delà du choc entre les ballons d'or, c'est que ce sont deux clubs en reconquête, Juve et Barça. Donc, on va suivre attentivement leur évolution. Deux clubs qui ont tout changé au niveau du
coach aussi,
et pas mal des joueurs cet été, donc ça c'est vraiment intéressant à suivre.
Mais faites bien de le signer, on aura cumulé sur deux joueurs 11 ballons d'or sur le terrain, c'est assez vertigineux. Les groupes que je n'ai pas encore pu vous donner: Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland,
le club danois.
Là encore, désolé pour la prononciation un petit peu hasardeuse, c'est sympa. Liverpool, Ajax, Atalanta, on n'est pas loin d'avoir des équipes qui nous ont le plus séduites celles qui nous ont le plus séduites en Ligue des Champions
l'Ajax
ces dernières saisons.
L'Ajax qui nous a séduits, c'est plus l'équipe que l'Ajax va aligner cette saison. Beaucoup des joueurs qui étaient les maîtres à jouer sont tous partis.
Et Midtjylland qui s'est qualifié hier contre Prague avec notamment un but du Guinéen Sorikaba qui était titulaire lors de la dernière CAN.
Passé par Dijon qui avait coûté cher, qui s'était pas imposé, qui allait se relancer dans ce club qui a coutume de faire appel à beaucoup d'Africains, de Nigérians, de Ghanéens, beaucoup.
C'est un club qui a créé une académie en 2004 sur le modèle du FC Nantes d'ailleurs. Midtjylland, qui est né de la fusion de deux clubs de cette ville d'Herning qui est située dans le Midtjylland. Voilà, c'est la presqu'île qui va vers la Suède, hein, Copenhague étant au sud, plus vers l'Allemagne. Je dis ça pour nos auditeurs. Et donc, ils ont voulu créer un club entre guillemets en province, en région, qui soit capable de faire face au FC Copenhague, qui lui-même est né de la fusion de deux clubs de Copenhague. Copenhague. Et donc désormais, ce sont les deux principaux clubs danois. Mais eux, comme le réservoir au Danemark est effectivement limité, ce que disait Patrick, ils font appel à beaucoup de joueurs étrangers. Et même dans l'équipe de Youth League, qui a joué la Youth League la saison écoulée, il y a beaucoup de, puisqu'ils étaient champions du Danemark dans cette catégorie d'âge, il y a beaucoup de jeunes venus effectivement mais d'autres continents.
Ce sont pas les seuls, puisque Nordsjælland aussi, un autre club danois qui avait joué les poules il y a quelques années, ouais, a même créé une académie au Ghana.
Voilà, donc ce sont des clubs qui travaillent très bien à la formation avec les jeunes.
Et qui ont
donc
des liens avec l'Afrique.
Et c'est intéressant de les retrouver en Ligue des Champions, parce que ça veut dire que ce travail qu'ils ont fait ça depuis paye. De nombreuses années, depuis 16 ans maintenant pour Midtjylland, eh bien est récompensé au plus haut niveau.
Merci Xavier Barré, avec l'aide de Patrick Juillard pour cet exposé. Le dernier groupe pour ce premier tour de la Ligue des Champions, Zénith, Borussia, Lazio, Bruges, c'est assez séduisant également sur le papier.
Pas
Club Bruges. Club Bruges, oui, voilà. L'adversaire du PSG, du Real, la saison passée, qui avait été pas mal. Je vous redonne les dates, aux alentours du 20 octobre pour le coup d'envoi, aux alentours du 9 décembre pour la dernière journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce sera resserré et bien sûr RFI sera là pour vous faire suivre ces différentes rencontres.
UEFA Men's Player of the Year is Robert Lewandowski.
Quelle surprise! C'est renversant. Robert Lewandowski, joueur européen de l'année. Ça vous fait bailler.
Non, mais je suis très content pour lui.
Tellement c'était convenu et attendu. Donc, le Polonais du Bayern Munich, récompensé par l'UEFA. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse particulièrement cette année? C'est parce qu'il n'y aura pas de Ballon d'Or. Il n'y aura pas de Ballon d'Or.
Ballon d'Or France Football.
Or, pour beaucoup, le Ballon d'Or logique aurait été Robert Lewandowski. Du coup, on a tendance à imaginer, Marc Libra, que ce prix du joueur européen de l'année, qui vient d'être décerné il y a quelques minutes par l'UEFA, c'est une sorte de compensation, un lot de consolation pour Robert Lewandowski. 55 buts, dont 15 en Ligue des Champions la saison passée.
Ouais, c'est stratosphérique, mais depuis presque 10 ans, il me semble. C'est quelqu'un qui met entre 30 et 35 buts. Qui est une référence. Alors malheureusement, il y a toujours deux monstres qui s'appellent Messi et Ronaldo qui sont là pour l'empêcher, mais c'est juste, c'est vraiment mérité. Je crois que 55 buts sur une saison, c'est quand même très impressionnant. Il rentre dans l'âge. On nous explique que le Bayern, avec les débuts de saison compliqués, avec un ancien coach et un nouveau coach qui arrive, bah c'est simplement gigantesque pour lui. Et bravo, je suis très content pour lui.
Alors, on rappelle, mais là encore, il faut avoir vécu sur Mars pendant plusieurs mois pour pas le savoir, que le Bayern est évidemment logiquement récompensé aussi à travers Robert Lewandowski, le Bayern qui a tout raflé, notamment un cinquième trophée hier, la Supercoupe d'Allemagne, aux dépens de Dortmund. Hansi Flick également, entraîneur de l'année, on en parle dans quelques instants. D'abord, oui. Lewandowski, oui, il est en concurrence avec Manuel Neuer, son coéquipier, gardien de but, gardien et de Kevin De Bruyne de Manchester City, qui faisait un peu de la figuration.
Oui, alors c'était logique qu'un joueur du Bayern soit récompensé. Après, Lewandowski, alors bien sûr c'est le buteur, on privilégie toujours effectivement ceux qui marquent, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de très important cette année, c'est que non seulement il réalise le triplé avec le Bayern, mais il fait le double triplé, parce qu'il est aussi meilleur buteur dans les trois compétitions remportées par le Bayern, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Et ça, c'est assez incroyable, parce que ça lui était jamais arrivé auparavant. Et puis il faut rappeler une chose aussi, c'est que Lewandowski, lorsque le Bayern a fait le précédent triplé en 2013, lui il était en face, il était encore au Borussia Dortmund, donc il avait vraiment cette rage de vaincre, de gagner enfin au plus haut niveau, et donc il y arrive enfin un peu sur le tard, puisqu'il a plus de 30 ans maintenant. Et je peux vous dire qu'en Pologne, par contre, j'ai eu pas mal de coups de fil depuis quelques semaines, ils vivent très mal le fait qu'il n'y ait pas de Ballon d'Or cette année. Alors ils me disent, oui, qu'est-ce qui se passe à France Football? Alors je dis, j'y suis plus depuis quelques temps maintenant, faut leur demander. Mais ils vivent très mal parce que ils pensent vraiment en Pologne que cette année Lewandowski donc aurait eu non seulement le titre de l'UEFA mais aurait mérité le Ballon d'Or. Voilà. Donc ça aurait été le premier Polonais à le gagner. Ça ne sera pas pour cette année.
Est-ce que quelque part ça perd un peu le Ballon d'Or officieux? Est-ce que ça rehausse pas l'intérêt de ce prix UEFA qui est pas forcément le plus suivi, le plus attendu?
Oui, ça rehausse son intérêt et puis surtout c'est ce qui est intéressant, c'est que le triomphe de Lewandowski est d'autant plus incontestable que l'Euro a été annulé, donc toute la lumière a été prise par la Ligue des Champions et les championnats nationaux, et sur ces deux tableaux-là, sans compter toutes les récompenses annexes, les coupes et les supercoupes, mais sur ces deux tableaux-là, Lewandowski a été exceptionnel. Donc le Ballon d'Or ne souffre pour moi d'aucune contestation. Kevin De Bruyne, qui a était l'un des joueurs les plus enthousiasmants sur le plan purement technique, a eu le prix du meilleur milieu de terrain UEFA de l'année, donc il repart pas bredouille, c'est un peu comme l'école
des fans. C'est la consolation dans la consolation.
Tout le monde a une bonne note. Et voilà, et on peut un petit regret à titre personnel, c'est un peu dommage qu'un joueur comme Joshua Kimmich, qui est un des joueurs les plus intelligents, les plus fins et les plus protéiformes, parce qu'il peut jouer avec un égal bonheur.
Il aurait pu avoir trois lignes.
Plusieurs postes.
Dans les trois lignes. Pour moi, mais il peut jouer partout. Donc.
Lui, il aurait peut-être mérité quelque chose.
Oui, mais là, on en revient à une limite que vous évoquiez tout à l'heure, Marc Libra. Et vous, l'avant-centre, c'était peut-être un petit peu paradoxal que vous releviez, que vous puissiez relever, pardon, cette limite des trophées individuels. On va toujours avoir tendance à récompenser l'attaquant, alors que, par exemple, Neuer a été extrêmement décisif, et c'était pas la première fois dans une finale, celle de la Ligue des Champions, en l'occurrence. Il y a Joshua Kimmich, joueur de l'ombre entre guillemets, mais qui prend quand même pas mal la lumière, quel que soit le poste où il évolue.
On va se rappeler que quand Liverpool est champion d'Europe la saison passée, avec tout ce qui se passe autour, on a du mal à dire qu'il n'y ait pas un joueur de Liverpool qui est champion d'Europe et ça se passe pas. Enfin, qui est pas Ballon d'Or, qui est pas donc tout ça.
Le titre de joueur de l'UEFA est revenu à Van Dijk.
Et d'ailleurs, on avait mis en avant un défenseur.
On avait mis un défenseur.
Van Dijk avait été élu. Moi, il a pas raté le Ballon d'Or de Mané, beaucoup, hein, Van Dijk.
Ouais, il faut pas préciser beaucoup, une chose. Tu vois, et pour moi, c'était automatiquement, ça aurait été mérité un joueur de Liverpool. Alors, te dire lequel? Est-ce que c'est Salah? Est-ce que c'est Mané? Est-ce que c'est Van Dijk? Pour à l'arrivée, non, mais il y en a aucun qui a le Ballon d'Or, tu vois. Donc
il faut retenir le fait que le Bayern a été récompensé.
Oui, je crois que il y a un élément important, Hugo, c'est la composition du jury de ce titre,
oui,
de l'UEFA.
Oui.
Et je crois qu'il faut l'expliquer, parce que il y avait à l'origine, lorsque Michel Platini a décidé de créer, parce que le Ballon d'Or était parti à la FIFA, il faut le rappeler, en 2011, il a créé le titre de meilleur joueur de l'UEFA, et donc le premier lauréat, ça avait été Messi en 2011, c'était des journalistes, c'était le même principe que le Ballon d'Or d'origine, donc il y avait 53 journalistes qui représentaient chacun un pays affilié à l'UEFA. Et puis, en 2017, ils ont réformé ce système de vote, ils y ont ajouté les entraîneurs des clubs qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions et de l'Europa League, soit 80 entraîneurs. Et comme par hasard, depuis cette date-là, eh ben, il n'y a plus Messi ni Cristiano Ronaldo qui ont été élus. Enfin, Cristiano Ronaldo l'a eu en 2017, mais en 2018, ça a été Modric, en 2019, Van Dijk, et en 2020, Lewandowski. Donc, on voit qu'effectivement, quand on fait appel à des techniciens...
La performance collective est plus prise en compte.
Exactement. Je crois que c'est important de le souligner.
Mais comme l'a dit Hugo, c'est malheureusement l'autre consolation. On te donne ça parce que le Ballon d'Or, on sait que c'était réservé pour l'élite, entre guillemets. C'est ce que je pense. C'est dommage.
L'entraîneur de l'année, l'entraîneur du Bayern, l'entraîneur de Lewandowski, de Neuer, de Kimmich et des autres, Hansi Flick, c'est quand même assez sympa et ça permet une nouvelle fois de saluer le parcours incroyable de cet ancien adjoint de Joachim Löw en équipe nationale qui était arrivé, personne ne l'attendait vraiment, en tout cas pas à ce niveau d'initiative et de responsabilité au sein du Bayern. Il arrive en pompier de service.
Voilà, on pensait qu'il était là pour assurer la transition jusqu'à la fin de la saison et qu'à ce moment-là, le Bayern repartirait sur un nouveau cycle avec un entraîneur plus réputé. Eh bien non, il a pris totalement il était tout à fait à la hauteur. Le costume était pas trop grand pour lui. Bien au contraire, il a totalement relancé cette équipe. Et voilà, c'est un architecte formidable de ce rouleau compresseur du Bayern Munich.
Non, mais sur Hansi Flick, on n'a pas grand chose de mal à dire.
Quand il prend son poste.
Hans-Dieter Flick.
Quand il prend son poste, on nous explique que normalement, avant Noël, il est plus là, ou alors il va aller jusqu'à Noël. Mais il a su gérer des hommes, il a su remettre des Müller en selle, des joueurs très importants qui, malheureusement, avec le coach de Monaco actuellement, ça ne fonctionnait plus. Non, mais c'est terrible. Ça ne fonctionnait pas. Et là, on se rend compte qu'il arrive et ça fonctionne. Il remet toute l'équipe, tous les joueurs dans le sens de la marche. Et bravo à lui, c'est magnifique.
La joueuse de l'année, on peut en parler également. Parce que là, il y a une petite surprise, c'est pas une lyonnaise.
C'est
la joueuse de Wolfsburg, Penny Harder, donc danoise, qui jouait à Wolfsburg et qui a quitté le club, me semble-t-il. Ouais. Peut-être une réaction, le fait que ce soit pas une lyonnaise alors qu'elles
déçu,
ont remporté leur cinquième Ligue des Champions.
Un titre de meilleure défense.
Déçu pour Jennifer Marossa,
un prix de meilleure défenseuse, mais c'est pas le prix de la meilleure joueuse.
Non, je suis déçu pour une joueuse que j'adore et qui est souvent un peu oubliée ou un peu prise de haut, c'est Jennifer Marossan,
l'Allemande
d'origine hongroise qui joue à l'OL et qui est une meneuse de jeu absolument remarquable, 10, ouais. Superbe à regarder jouer.
Et Penny Harder,
Penny Harder que je connais moins, je l'avoue.
Qui évolue à Chelsea désormais, je cherchais le club dans lequel elle avait signé. Félicitations à elle. Voilà pour les prix UEFA. Rien à ajouter. On a tout. On a le tirage au sort. On a les palmarès individuels. Bravo messieurs. Et puis bon courage au club français en Ligue des Champions. On suivra ça bien sûr sur RFI. courage au club français et aux autres, bien sûr, nous sommes sur Radio Foot International, pas de chauvinisme mal placé. On va laisser de côté tout ce beau monde, tous ces clubs, pour parler des sélections, puisqu'une prochaine trêve internationale approche, un retour sur les terrains qui est très attendu. En Afrique, Patrick Juillard, ce serait une première depuis le début de la crise sanitaire. C'est dire
oui, pire que ça, c'est une première depuis novembre 2019.
Depuis pratiquement un an.
La date FIFA de mars avait été annulée au dernier moment, alors que certaines sélections avaient déjà annoncé leur liste et certaines équipes connaissaient déjà leur programme. Donc là, on est d'autant plus impatients de les voir retrouver les terrains et... Vous allez nous donner quelques listes qui sont tombées, j'imagine.
Alors, je voudrais surtout qu'on s'attarde sur celle de la Côte d'Ivoire. Le programme d'octobre pour la sélection de Côte d'Ivoire. Rappelez que les éliminatoires de la CAN reprendront en novembre. Et là, on est sur des matchs amicaux. Match amical contre la Belgique en Belgique le 8 octobre pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, il y aura le Japon aux Pays-Bas le 13 octobre. Ce seront les premières sorties de Patrice Baumel en tant que sélectionneur des éléphants, sélectionneur... Non pas adjoint, mais sélectionneur tout court. Il était évidemment l'adjoint d'Hervé Renard lors du titre de 2015. Il vient donc de dévoiler sa première liste, Patrice Baumel. Surprise, deux grands retours, deux champions d'Afrique 2015, justement, Gervinho et Seredi. Alors on va surtout s'attarder sur Gervinho. On ne l'attendait plus quelque part, ce retour chez les éléphants, absent depuis 2017. Et la déroute à domicile face au Maroc en éliminatoire de la Coupe du Monde, Gervinho. Alors pourquoi déjà n'était-il plus appelé? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Patrick Juillard, un problème de brassard et un problème relationnel avec Marc Villemot et les autres sélectionneurs?
Un problème relationnel, oui. Déjà l'envie de prendre un peu de recul. Un départ en Chine, bon, il en est revenu, mais ça avait pas favorisé les choses. Il voulait un petit peu mettre la sélection de côté. Et puis des problèmes relationnels avec Villemot, c'est surtout avec Ibrahim Camara qui
le local qui a remplacé
celui qui a été remplacé par Baumel donc en début d'année, qui ne voulait plus construire autour de Gervinho, qui avait décidé de s'en passer, ce qui pour moi est une erreur et voire une hérésie, puisque Gervinho, on pense évidemment tous ici à Drogba ou à Yaya Touré. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, quand on pense au titre de 2015, on pense à Yaya Touré. Mais le joueur clé, le joueur le facteur X, le vrai détonateur offensif de cette équipe, et le joueur qui a toujours été le plus décisif, qui a vraiment, qui était un peu le métronome de l'équipe, c'était Gervinho.
Et qui joue encore à haut niveau.
Il joue encore à Parme en Serie A. Bon, alors Parme, ça va très...
Sa troisième saison, là, ça va très mal.
Voilà, ça va très mal pour l'équipe, mais lui-même, sur la saison passée, et surtout celle d'avant où il avait fait son retour,
il
avait...
Et plus de 10 buts, je crois,
voilà,
en Serie A.
Il était pas loin de ce qu'on appelle le double-double, 10 buts, 10 passes décisives. Donc, ça reste un joueur performant. Et je pense que même son retour dans le groupe peut faire du bien. Voilà, il y a le retour de Serédier aussi, qui avait pourtant annoncé
exactement,
sa retraite
capitaine également
internationale sur cette antenne, sur RFI.
Après la CAN 2019 et voilà. Son tir au but raté contre l'Algérie en quart de finale, le tir au but qui élimine les éléphants.
Et voilà, donc ça, c'est, je pense que c'est évidemment, le Patrice Baumel nous l'avait confié, il souhaitait faire revenir certains cadres et visiblement son discours est bien passé et les joueurs ont donné leur accord. Donc on va voir, on n'est pas sur un choix d'avenir, mais la Côte d'Ivoire, qui est mal partie dans les éliminatoires de la prochaine CAN, n'a pas le temps de jeter sereinement les fondations de l'avenir. Elle doit être rapidement performante pour rétablir la balance. Donc je pense que c'est pas un mauvais choix.
Le Maroc, lui, affrontera en octobre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Pourquoi je vous parle du Maroc? Parce qu'il y a Mounir dans la liste de Vahid Halilhodžić. Mounir, l'Espagnol enfin devenu marocain, si je puis dire, Xavier Barré, grâce à la nouvelle réglementation FIFA. On se souvient qu'il avait joué un match d'éliminatoire de l'Euro en 2014 avec l'Espagne. Il était tout jeune pépite du Barça. Il n'a pas confirmé derrière. Il n'a pas pu bifurquer vers le Maroc en sélection nationale. Pourquoi? Est-ce qu'il avait disputé un match officiel et la réglementation a un peu changé?
La réglementation a évolué, effectivement. Quand vous disputez un match, comme vous l'avez rappelé, officiel, donc là, c'était les éliminatoires de l'Euro, après, vous ne pouvez plus changer de sélection. Alors maintenant, il y a une petite modification, c'est-à-dire que quand un joueur dispute un match officiel avant ses 21 ans, avec un pays donc, et qu'ensuite il n'est pas sélectionné pendant 3 années, et qu'il n'a pas joué de phase finale, hein, que ce sont que des matchs de qualification, ce ne sont pas des matchs par exemple de championnat d'Europe, de CAN ou bien sûr de Coupe du Monde, à ce moment-là, au bout de 3 ans, il peut changer de sélection. Donc c'est une nouvelle porte qui s'entrouvre pour beaucoup de joueurs, qui leur laisse le temps éventuellement d'avoir une seconde chance. Voilà, donc ça fait beaucoup de modifications sur les réglementations internationales. Voilà, bon, tant mieux pour Mounir, comme ça il va pouvoir.
Qui était le joueur un peu emblématique de ce changement de réglementation. On va avancer, je suis désolé, Patrick Juillard, et je voudrais donner le mot de la fin à Marc Libra, si ça vous dit, parce qu'on a aussi une sélection française, je crois, qui a dû gagner quelques titres dernièrement. Oui. Nouvelle liste de Didier Deschamps tout à l'heure. Il n'y a pas forcément des milliers de choses à en dire. 24 joueurs convoqués au lieu des 23 habituels, parce qu'il va y avoir un calendrier chargé. L'Ukraine en amical le 7 octobre. Et puis le Portugal et la Croatie dans la foulée en Ligue des Nations. Retour de Pogba. Paul Pogba qui était positif au coronavirus la dernière fois. Pogba, on a un peu parlé de Manchester United tout à l'heure, et vous parliez de Pogba, il a marqué, il revient en équipe de France, il revient retrouver un statut qui est incontestable en bleu, c'est le retour d'un cadre qui fait toujours du bien.
Oui, en bleu c'est incontestable. Alors c'est vrai que depuis la Coupe du Monde on a du mal à retrouver son meilleur niveau, mais on a l'impression que chaque fois qu'il est avec Deschamps tout se passe bien et il rentre dans les ordres. Après, je me languis de revoir encore une fois, c'est Camavinga, quoi. Eduardo Camavinga qui avait fait sa rentrée et qui a été simplement époustouflant sur une quinzaine, vingtaine de minutes. Donc, autant de facilité à cet âge-là, ben, je me dis, il y a des choses à faire. Donc après,
justement, il va pouvoir apprendre avec Pogba. L'un avait un peu remplacé l'autre la dernière fois. Donc.
Exactement, mais je pense que... voilà, je suis plutôt impatient après ce genre de match-là. On sait que Deschamps est capable, à un moment donné, de faire basculer son équipe dans le bon sens. Et est-ce qu'il va le faire sur sa sélection? Parce qu'il y a aussi des priorités en Ligue des Champions, des matchs qui vont être très rapprochés. Enfin, voilà. Le championnat, enfin, tout est très difficile en fait.
Là, vous parlez du match contre l'Ukraine, mais derrière, il y a le Portugal et la Croatie en Ligue des Nations.
Oui, j'ai bien signé. Bien
trois,
sûr,
c'est trois matchs. Des matchs officiels.
Vous avez quand même le remake de la dernière, la finale de la dernière Coupe du Monde et le remake de la finale du dernier Euro. Ouais.
Alors, je pense que évidemment, l'équipe de France veut briller dans cette Ligue des Nations, qui, rappelons-le, en cas d'accident dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, offrira une possibilité de rattrapage aussi
de l'Euro. C'est
pour la prochaine Coupe du Monde.
Ah oui.
Prochaine Coupe du Monde. Non, c'est un peu alambiqué, effectivement, mais ça existe.
Je pense qu'on n'y comprendra jamais vraiment grand chose. Il y aura toujours un point
qui est intéressant aussi, c'est dans cette liste, c'est Oussem Aouar, qui avait été appelé le mois dernier, qui n'a pas pu venir à cause du Covid, et qui finalement est toujours dans les plans de Didier Deschamps. Ça, c'est intéressant, parce que je trouve que c'est un joueur bourré de talent.
Il y a énormément de joueurs que l'on attend aussi. On parle d'Aouar, il y a plein de jeunes joueurs que l'on veut voir, et on ne sait pas comment on va les voir aussi.
Et Aouar, qui a déjà passé la limite d'âge, si toutefois il voulait plus tard changer de nationalité sportive. Oui, il a déjà passé les 21 ans, ce qui n'était pas le cas de Mounir.
D'ici 2-3 ans,
lorsqu'il a été appelé pour la première fois. Mais Camavinga, par exemple, admettons, pourrait éventuellement plus tard opter pour l'Angola. Et on est dans le foot fiction, là, bien sûr.
Bon, on a également le retour de Kingsley Coman, l'unique buteur de la finale Ligue des Champions.
Il y a l'absence de Ferland Mendy.
On a Pavard, absence de Ferland Mendy. Qu'est-ce qu'on peut dire également Rabiot qui revient.
Qui sortent du groupe, Costil, Ferland Mendy, effectivement, également Moussa Sissoko, Fekir et Ikoné.
Bon, la liste peut évoluer, hein. Il reste encore des matchs, des forfaits.
Ikoné qui joue peu avec Lille en début de saison, donc c'est
qui avait été appelé
ça
la dernière fois. Ouais.
Ouais. On aura le temps de décortiquer cette liste et l'équipe de France. En général, Radio Foot touche à sa fin. Merci d'avoir été
là.
Merci Marc Libra. Merci Xavier Barré. Merci Patrick Juillard. Merci Pierre-Olivier Guérin. Merci Alice Ménard, Alejandro Valente, toute l'équipe qui a œuvré en coulisses. C'était pas simple avec toutes ces informations qui sont tombées pendant le début de l'émission. Demain, Radio Foot, le Café des Sports, Marie-Amélie Motte aux commandes. En attendant, excellente soirée sur les antennes de la Radio du Monde.